Ah oui, merci. Bienvenue à tous, c'est le Seigneur qui nous accueille maintenant. Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes tous frères, conviés au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont données la grâce et la paix du Seigneur. De même que dans l'aridité du désir, il y a la fraîcheur des oasis où l'on boit l'eau de la source. De même, dans l'agitation de nos vies, comme un désert où Dieu n'est pas, il y a la célébration du culte où, ensemble, nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous et avec nous tous. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Bénissons Dieu le seul Seigneur, nous qu'il choisit pour serviteur. Levons nos mains dans sa maison pour bénir et louer son nom. Plus forte que nos tristesses aujourd'hui éclate notre joie. Plus forte que nos ténèbres aujourd'hui jaillit la lumière. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus Dieu parmi nous nous a rejoints, qui vient nous sauver. Amen. Et je vous invite à prendre dans le psautier français le psaume 98, les strophes 1, 3 et 4. Donnons un nouveau cantique pour célébrer ce Dieu Sauveur, ce qu'il a fait magnifique, devant pour nous un brave vainqueur, le salut de Dieu se révèle, et tous les yeux l'ont reconnu. La nouvelle Vous asseoir. Nous écoutons la volonté de Dieu. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, préoccupe-toi du malheureux sans-abri, et ne te détourne pas de ton prochain. Amen.
Seigneur, ton serviteur écoute, bénis ton serviteur, car enfin je le suis.
Nous nous repentons maintenant devant la volonté du Seigneur. Nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as créés pour que librement nous nous tenions debout devant toi, pour t'aimer et te servir, pour aimer et servir ceux qui sont à nos côtés. Nous t'adorons. Mais nous avons forgé toutes sortes de chaînes qui nous entravent nous-mêmes ou entravent les autres. À ton monde de liberté, l'être humain a opposé un monde d'oppression et d'esclavage. Pardonne-nous les liens que nous avons acceptés pour nous-mêmes et ceux dont nous avons lié d'autres. Et aide-nous à briser les chaînes injustes. Amen.
Mon Dieu, car il entend ma voix, quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ta détresse.
Nous écoutons maintenant les paroles de relèvement de Dieu. Dieu fait grâce à chacun de nous par Jésus, son Fils, notre Seigneur. Il allège notre cœur, nous décharge de nous-mêmes et renouvelle en nous l'esprit de son pardon. Que cette grâce qui nous est accordée soit répandue vers ceux qui nous entourent, afin qu'ils se sachent à leur tour pardonner. Que cette grâce soit pour nous comme un surcroît d'indulgence et d'amour, qu'elle produise la paix et la joie, la justice, l'équité, la clarté et la miséricorde, qu'elle produise les fruits que Dieu attend de nous, afin que nous soyons des hommes et des femmes libres et responsables pour la venue de ton royaume parmi nous. Amen. Et nous nous levons pour rendre grâce à Dieu.
Tout ce que tu fais, mon bien tes hauts faits sont dignes de mémoire. Tes œuvres sont pareilles, en réjouit mon cœur. Je veux chanter, Seigneur, tes
pardonnés et libérés, nous confessons maintenant notre foi. L'homme n'est pas seul. Il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau. Qui œuvre en nous par son esprit, nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église pour célébrer sa présence, pour aimer et servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal, nous proclamons son royaume. Dans la vie, dans la mort, dans la vie malgré la mort, il est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Vous asseoir. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et d'amour, et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors je vous invite à écouter ce matin les textes du jour. Le premier, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, les versets 19 à 23. Vous demandez pourquoi le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père. Eh bien, c'est parce qu'il a agi conformément au droit et à la justice et qu'il a obéi à toutes mes règles. Il vivra donc. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice et le méchant sera puni pour le mal qu'il fait. Si un méchant renonce à ses mauvaises actions, s'il se met à obéir à mes règles et à agir conformément au droit et à la justice, il n'aura pas à mourir. Assurément, il vivra. Tous ses torts seront oubliés, et il vivra grâce au bien qu'il pratique. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants ? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Et puis, un tout petit texte supplémentaire dans Ézéchiel, au chapitre 37, la fin d'un récit que vous connaissez bien. « Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. » Ensuite, nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 25 à 32. Il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir, et elle avait dépensé tout cet argent. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore, qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus, finalement, lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix, délivrée de ton mal maintenant. » Et pour terminer, un petit texte que vous connaissez très bien aussi, dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8. Frères, nous désirons que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. J'en suis témoin. Ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils en ont fait plus que nous espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite, par la volonté de Dieu, également à nous. C'est pourquoi nous avons prié Tite de mener à bonne fin chez vous cette œuvre généreuse comme il l'avait commencée. Vous êtes riches en tout, foi, don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que nous avons éveillé chez vous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riche également dans cette œuvre généreuse. Il ne s'agit pas de vous faire tomber dans le besoin pour soulager les autres, mais c'est une question d'égalité. En ce moment, vous êtes dans l'abondance et vous pouvez donc venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Puis, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils pourront vous venir en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare, celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216, les strophes 1, 2 et 3.
Seigneur, que ton règne.
Tu es Seigneur, plus étonnant que tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es grand et ta place est auprès de Dieu. Tu es le Seigneur. Je ne connais pas ton visage, ni la musique de ta voix, ni la beauté de ton trône. Mais je le sais, tu es comme nous, car longtemps au milieu de nous, tu as marché. Je ne regarde pas le ciel. Je te cherche sur la terre, dans les maisons et les rues, dans les champs et les usines, sur les chantiers et dans les écoles. Tu es élevé au-dessus de tout, mais je te trouverai dans les hommes, mes frères. Avec eux, je me lèverai, nous sortirons du mal qui nous tient enchaînés. Éclairés par tes paroles, nous avancerons sur le chemin comme on gravit une montagne, et nous monterons jusqu'à ce jour où, à tes côtés, nous serons élevés au-dessus de tout pour partager sans fin la joie de ta maison. Qu'y a-t-il de commun entre cette dame, malienne certainement, que j'aperçois de ma fenêtre le matin vers 5h30, lorsque le RER est arrivé à l'heure, nettoyer les bureaux d'une société de conseil en management de la rue du Louvre, et le jeune homme pressé, qui dans un horaire visiblement très minuté, s'applique à faire l'heure d'exercice physique programmée pour le maintenir en forme dans son travail de cadre financier, dans ce club de gym où je me rends de temps en temps le soir à 18h30, dans les sous-sols de cet espace au nom d'ailleurs chargé de symboles qu'on a nommé la Défense. Hormis qu'ils sont équipés l'un et l'autre d'un smartphone qui est censé les maintenir au moins virtuellement en contact avec le reste du monde, un monde sur lequel ils n'ont d'ailleurs plus aucune prise, un monde dont ils sont un rouage dépourvu de véritable responsabilité et de toute véritable liberté, qu'y a-t-il donc de commun entre eux ? C'est le genre de question à laquelle un de nos plus grands philosophes contemporains, Peter Sloterdijk, nous invite. Ce monde, notre monde, dit-il, victime de ce que l'on a appelé jusqu'à nos jours le progrès, ne nous conduit-il pas par les contraintes qu'il produit à une redoutable régression où l'irresponsabilité règne et nous plonge dans une immaturité sans joie et sans horizon. Il est vrai que depuis Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, André Gorz, le Club de Rome, nous savons que notre monde se dirige dans une accélération exponentielle, livré à ses illusions gnostiques et technologiques, vers une fin dont nous commençons seulement à prendre conscience. Tous les mots ont été prononcés pour qualifier ce sombre avenir, asphyxie et réchauffement pour cause de gaz carbonique, effondrement d'un système financier international dominé par un endettement insolvable, implosion des montages juridico-administratifs noués à l'extrême, perversion autoritaire des démocraties, déploiement des systèmes de sécurité pour prévenir les embardées sociales et belliqueuses de nations, qui ayant laissé monter, ou plutôt fait prospérer, les inégalités entre les peuples et les classes sociales, ne voit d'autre avenir que celui d'un repli sur soi derrière des frontières honteusement égoïstes. Tout cela ne nous mène-t-il pas à un totalitarisme rampant, conforté par un réseau de données informatiques opaques, finalement bien accepté par tous, car rassurant devant le sentiment d'impuissance qui gagne les esprits. Il est vrai que nos quatre derniers présidents, pour ce qui concerne la France, ont chacun à leur tour et à leur manière sonné le tocsin. Depuis ce discours célèbre de Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg, inspiré, croit-on, par Nicolas Hulot, « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs », disait-il, « la Terre et l'humanité sont en péril, nous en sommes tous responsables, il est temps d'ouvrir les yeux ». Fin de la citation. Malheureusement, nos sonneurs de tocsins successifs, pris au piège d'une soi-disant réalité incontournable, ont emboîté le pas à l'insupportable décret de Madame Thatcher, on ne peut pas faire autrement, justifiant ainsi la persistance de l'irresponsabilité, c'est-à-dire de l'immaturité béate, de tous ceux qui, dans un confort infantilisant, se réfugient dans un hédonisme à courte vue au mépris de tous ceux qui en sont exclus et au mépris de leur propre dignité d'hommes et de femmes appelés à être autre chose que les marionnettes d'une nécessité aveugle et mortelle, cette folle maîtresse qui fait de nous des esclaves. Et c'est ici, dans ce temps, que nous parle, toujours et sans relâche, ces textes bibliques qui témoignent d'un autrement possible et nous appellent à un sursaut, une indignation, une révolte, une insurrection, une conversion. Je suis tombé récemment, pas tout à fait par hasard, sur des propos de Paul Ricoeur, datés de 1967, quelques mois avant les événements que vous connaissez bien. Voici ce qu'il disait. « Il y a une juste indignation. Dieu parle aussi par le cri de la terre, le cri de la faim dans le monde. S'en accommoder serait faire partie des fausses soumissions, des fausses autorités, à l'égard desquelles il faut être en état d'insurrection. Il faut poursuivre une certaine insurrection de l'homme contre les faux maîtres, et je pense que nous pouvons le faire sans haine et sans violence. » Fin de citation. Je me suis alors posé la question suivante. De même que Charles de Gaulle, en face de la parole insurrectionnelle de Jean-Paul Sartre en 68, avait dit « De Gaulle ne met pas Sartre en prison », je me suis demandé si notre ministre de l'Intérieur et des Cultes, par ailleurs, Gérard Collomb, qui récemment déclarait qu'il allait poursuivre tous ceux qui appellent à l'insurrection, aurait considéré que Paul Ricoeur faisait partie de cela. Je n'en sais rien. Ce que je sais, par contre, c'est que Paul Ricoeur, lorsqu'il tenait ses propos, prenait appui sur sa longue intimité avec le texte biblique. Et que je vois dans ce texte d'Ézéchiel que nous venons de lire un appel clair à s'insurger contre la nécessité et les contraintes qui encombraient le peuple d'Israël et le paralysaient, et peut-être bien nous-mêmes encore aujourd'hui. Car au fond, ce que fait le prophète, c'est de se mettre en contradiction flagrante avec l'air du temps, l'air de son temps. Il bouscule les cadres habituels de la société dans lesquels il est immergé. En effet, il parle de responsabilité personnelle, là où les destinées individuelles sont noyées dans la confusion des héritages qui s'imposent. C'est à une véritable révolution qu'Ézéchiel se propose de procéder. Là où règnent le hasard et la nécessité de l'appartenance à un peuple, Ézéchiel rappelle que chacun est porteur d'une puissance créatrice qui peut soit engendrer le malheur, soit au contraire générer joie, bonheur, bonté, justice, bienveillance, hospitalité et fraternité. En un mot, la vie bonne. Ézéchiel rappelle dans un premier temps que la vie dans laquelle nous sommes pour ainsi dire embarqués n'est pas une vie contrainte et prédéterminée, comme on pourrait le croire, par les gestes et les dires de ceux qui nous ont précédés. Le Dieu auquel ils croient ne juge pas les uns et les autres au regard des antécédents dont ils sont les héritiers. Ézéchiel est le premier qui clairement affirme la responsabilité personnelle de chacun. En un sens, Ézéchiel déclare que le projet de Dieu pour l'homme est qu'il soit adulte. Chacun de nous est potentiellement créateur authentique d'une vie choisie et non pas subie, imposée par des contraintes qui déresponsabilisent et infantilisent. Ézéchiel prononce la maturité de l'homme et de la femme dans un monde au sein duquel chacun est appelé à mettre en œuvre l'appel qu'il a reçu, c'est-à-dire briser tous les déterminismes qui pourraient la servir. Mais de plus, Ézéchiel est un redoutable briseur d'idoles. Même lorsqu'il nous rappelle que Dieu jugera chacun selon ses propres actes, il met à bas, si l'on veut bien lire attentivement ce texte, cette croyance bien partagée de son temps et encore de nos jours d'ailleurs, qu'il y aura tôt ou tard une rétribution céleste demain, après-demain, dans un lointain futur, à ce que chacun a été dans ce monde. Pour lui, il n'en est rien. Seul existe deux réalités, la vie et la mort. La vie que nous pouvons déployer ici et maintenant, ou la mort à laquelle nous pouvons succomber, ou que nous pouvons provoquer lorsque nous renonçons à être des vivants. Dieu n'est pas un lointain observateur, juge ultime de ce que nous sommes ou avons été. Il est pour ainsi dire le miroir discret de nos vies, qui sont comme hantées par l'aspiration souvent étouffée mais pourtant tenace qui nous est commune, à savoir être des lutteurs, des combattants pour que le bien devienne le lot partagé de nos existences. Ce Dieu juge et lointain est une idole. Ézéchiel nous informe que pour nous, pour que nous soyons des êtres responsables et adultes, ni infantiles ni immatures, Dieu s'est en quelque sorte retiré pour nous faire place. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il s'est mis en retrait après avoir insisté pour que son désir, une vie bonne et heureuse pour tous, soit mise en œuvre par tous et pour tous, pour tous ceux qui habitent la création. Comme le disait Dietrich Bonhoeffer, il nous faut vivre maintenant sans Dieu, sans aucun Dieu au pluriel, sans aucune idole, que ce soit les lois immuables d'un destin préparé ou les contraintes fallacieuses d'une pseudo-réalité nécessaire et incontournable. Nous sommes libres, totalement libres, libres de choisir la vie généreusement partagée avec tous ceux et toutes celles qui croisent nos chemins. Sans Dieu, oui, mais devant Dieu, c'est-à-dire avec cette espérance qui vient sans cesse nous habiter, nous hanter, hanter l'humanité lorsqu'elle cherche son chemin au travers des difficultés et des souffrances qui l'assaillent. La leçon d'Ézéchiel, qui à ce moment-là parle depuis un temps où la montée des périls est grande pour le peuple juif, et que nous pouvons, bravant tous les déterminismes, chacun de notre place, dans une liberté totale, dans une responsabilité sans frein, nous pouvons creuser des brèches de vie dans ce destin mortel qui souvent nous menace. Ces brèches, c'est à nous de les provoquer, et pour ce faire, nous sommes accompagnés, tout simplement accompagnés par cette discipline de lecture et de célébration, hérité d'un passé choisi, lui, dont on sait qu'il a été une résurrection toujours présente. Et je pense ici aussi bien à ces ossements qui reprennent vie qu'à cette pierre roulée devant un tombeau vide, c'est-à-dire bel et bien une insurrection de la vie contre la mort. Je disais précédemment, totale liberté, heureuse responsabilité. Nous savons désormais que nous n'avons rien à sacrifier à aucune idole, et en particulier à celles qui nous sont imposées sournoisement par ce monde qui nous susurre sans cesse à l'oreille et propose sur nos écrans que pour nous réaliser pleinement, il suffit d'être de ces acteurs dociles et consentants qui produisent et consomment pour qu'advienne un salut réservé à un petit nombre. Creuser des brèches de vie, c'est bien autre chose. Et les deux autres textes qui nous sont proposés aujourd'hui en dessinent les contours. Celui de l'évangile de Marc, avec cette scène où Jésus, pressé par la foule, sent soudain une force le quitter, l'abandonner. Sa réaction m'intrigue. Au fond, Jésus se sent tout d'abord comme dépossédé d'une part de ce qui pour lui à ce moment est constitutif de son identité. Depuis quelques mois maintenant, Jésus parcourt entre autres la Galilée et en accomplissant ce pourquoi il est là, il se construit lui-même et chemin faisant, il se construit, comme cela nous arrive, l'image qu'il a de lui-même. Et dans cette image, il y a cette force par laquelle il se sent habité. Et sa première réaction, vous l'avez entendu, est celle d'un propriétaire, j'ai envie de dire, qui m'a touché. Sa première réaction, ce que je suis, personne n'a le droit, personne n'est autorisé à me l'enlever. Et ici se produit pour Jésus une conversion qui ne vient pas d'un sursaut intime, d'une illumination intérieure, mais de la force, d'un appel confiant, d'une personne qui est dans la détresse, en l'occurrence cette femme souffrante. Et la liberté de Jésus, c'est de concevoir que son identité n'a de sens que parce qu'elle est pour les autres. Jésus réalise que son petit moi, peut-être un peu satisfait, est un piège, une prison, que ce qu'il est n'a de sens que s'il est donné et partagé. Il en est de même pour nous. Être adulte, responsable, ce n'est pas protéger une identité autonome, souveraine, ce n'est pas défendre une intégrité, c'est au contraire se rendre vulnérable, précaire, en face de ceux qui sont eux-mêmes dépourvus de tout ce qui permet une vie libre, relevée et reconnue. Et au passage, permettez-moi une petite digression. En toute honnêteté, je me suis souvent questionné, comme beaucoup d'entre nous, sur la prière. À qui s'adresse-t-on ? N'est-ce pas un long monologue avec notre conscience ? Plutôt que ce long dialogue, ce dialogue si difficile, si souvent évoqué avec un Dieu dont j'ai écarté beaucoup de fausses images. Et j'en suis arrivé à me dire que la prière, c'est justement cela, se mettre en état de précarité. La proximité des deux mots, prière, précarité, qui ont la même origine, m'y incline. La prière, c'est se préparer à être vulnérable, précaire, non pas comme un exercice spirituel destiné à me grandir, mais comme un apprentissage en vue de la rencontre avec ceux qui attendent eux-mêmes la rencontre salutaire qui va faire d'eux des hommes et des femmes libres et responsables. Jésus, l'homme de prière, l'homme précaire, donné pour que d'autres vivent, c'est ainsi qu'il est le chemin qui s'offre à nous pour que nous le suivions. Ainsi ce texte est comme une balise sur ce sentier de liberté. Il est l'occasion de saisir cette brèche creusée pour la vie dont nous sommes désormais nous aussi responsables. Ce que nous sommes, à l'instar de Jésus, laissant filer cette force qui le constitue, n'a de sens que parce que, offert, mis au monde, nous sommes nous aussi donnés pour que d'autres vivent. Dans ce don, nous ne perdons rien, mais beaucoup peuvent en être au bénéfice, enrichis. Dépossédé de ma force, ma faiblesse devient richesse pour tous et il ne me manque rien. C'est d'ailleurs ce chemin que Luc nous rapporte dans le livre des Actes, lorsque Pierre et Jean, interpellés par un infirme mendiant, démunis eux-mêmes de toute monnaie sonnante et trébuchante, n'ont rien d'autre à offrir que ce qu'ils sont, c'est-à-dire les témoins de celui qui redresse toute infirmité. Ce qu'ils sont, ils s'en dessaisissent et l'offrent comme une liberté nouvelle pour celui qui dépendait de tous. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, mais les Corinthiens, eux, en avaient. Un peu certains, d'autres beaucoup, probablement, riches en tout, dit Paul. Mais cette possession aurait pu avoir le goût amer des biens que l'on protège. Il n'en est rien, semble-t-il. Et Paul, s'inspirant du récit de la manne, leur rappelle à quel point posséder, sous peine d'être une prison mortelle, n'a de sens que dès lors qu'il s'agit de partager équitablement. Cela veut dire simplement que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons est avant tout un don reçu, et je l'espère pour moi comme pour vous, jamais la triste conséquence d'un droit inaliénable. Ce que nous avons reçu comme une faveur, nous devons être inquiets non pas de le conserver, mais de trouver comment le partager dans un juste chemin de solidarité. Ce que nous sommes, nous avons vu précédemment comment nous pouvons ne pas le retenir comme une identité à préserver, à sécuriser. De même, ce que nous avons prend tout son sens si nous le rendons disponible pour ceux qui sont aujourd'hui ces frères de Judée qui manquent de tout. Et ici, je m'interdis de nommer ces frères de Judée. Chacun de nous peut aisément choisir ses frères dans l'innombrable énumération des malheurs du temps que nous mesurons devant nos écrans ou dans nos rues. Ceci est vrai pour chacun de nous, pour chacune de nos paroisses, pour toute l'Église, et c'est vrai pour toutes les nations qui retiennent honteusement, de peur de manquer, le privilège d'avoir une terre, le privilège de pouvoir y séjourner en paix, et souvent dans une abondance inutile. Hier, c'était Exodus, aujourd'hui, c'est Aquarius et tous les autres. Puissions-nous, Église, pays riche, retrouver cet élan, cette ferveur qui animait les communautés dont nous parle Paul, qui, dans une joyeuse concurrence, dans une heureuse émulation, insistait auprès de lui pour participer à ses collectes de soutien à ceux qui étaient dans la détresse. Peut-être, ce faisant, il nous sera donné alors de devenir ces ferments de liberté, de responsabilité, qui ne laissent plus les événements se produire selon les contraintes et les lois absurdes et injustes d'un marché qui plonge une grande partie de l'humanité dans des esclavages honteux. Peut-être nous sera-t-il donné de comprendre que l'hospitalité inconditionnelle est une première marche de l'escalier qui conduit au bonheur partagé et qu'alors nous serons nous-mêmes enrichis d'avoir fait un premier pas sur cette marche. Il nous faut, pour reprendre une expression connue, changer de paradigme. Ce que je suis, ce que je possède, n'a de sens que s'il est pour les autres, pour l'utilité commune, pour la construction, la consolidation de ce corps unique que nous sommes. Membres les uns des autres, membres les uns pour les autres, si l'un de nous souffre, tout le corps est souffrant. Alors, pour être heureux, luttons contre le malheur des autres. Résistons à tout ce qui les plonge dans le désarroi et le dénuement. Et ici, il me faut répondre à tous ceux qui critiquent, dans un certain mépris, ceux qui se risquent à dire « il faudrait qu'on fasse ainsi ou il n'y a qu'à faire comme cela ». Peut-être, derrière cette critique, se cache-t-il la volonté irresponsable et désinvolte que l'on connaît de longue date de se complaire lâchement dans le maintien du statu quo. Pour ma part, j'aimerais entendre plus souvent relayées par nos médias ces voix exigeantes qui nous rappellent, comme le font la CIMAD, le Secours catholique, la Fédération de l'entraide protestante, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qu'il faut changer notre regard, qu'il faut bousculer nos habitudes et qu'il n'y a qu'à le vouloir pour être fidèle à ce que nous avons entendu. Alors demain, lorsque je verrai cette dame malienne au travail, lorsque je verrai ce jeune cadre stressé, tous les deux enserrés dans cette toile d'araignée qui les emprisonne, je ne me contenterai pas de les regarder comme les symptômes d'une maladie incurable qui les accable. Je chercherai à entrevoir les voies possibles d'une guérison de ce monde qui les a servis. Ce sera ma liberté, ma responsabilité de persévérer sur ce chemin. Et puis, si sur ce chemin, un sentiment de lassitude, d'impuissance, de « à quoi bon » me gagne, si j'ai envie de laisser le hasard et les nécessités si souvent invoquées me dominer, je me souviendrai que ce Dieu vers lequel je balbutie, ce Dieu finalement bien inconnu, a pris la forme d'un homme de prière, précaire, vulnérable, fragile, mais vivant. Un homme qui est venu au-devant de nous. Un homme qui a montré que rien n'était impossible, que la liberté de s'insurger, de résister, que la responsabilité de promouvoir la vie était toujours offerte et qu'il était toujours possible de les partager. Et puis, si le doute était encore là, contre vents et marées, je célébrerai ce repas, je louerai cette parole qu'il nous a laissée pour que nous sachions que jamais nous ne serons abandonnés et qu'ainsi nous ne pourrons jamais plus abandonner nos frères et nos sœurs sur le chemin du royaume que nous désirons tous si ardemment. Amen. Merci Aurélien pour ce cœur des esclaves. Je vous invite à vous lever pour chanter. Alors, j'ai commis une erreur, non pas au cantique 277, mais au cantique 278. Sans les mêmes paroles, mais pas la même, le même air. Donc le 278, et nous chantons les strophes 1, 2, 3 et 4. Vous asseoir. C'est maintenant le temps des annonces.
Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Coy et je suis en dernière année d'éclaireuse à l'Oratoire et je prépare aussi une route avec Wedel, donc qui elle est juste routière. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est présenté il y a quelques mois. On prépare pour le moment un projet humanitaire au Togo, en Afrique, pour construire une annexe d'hôpital pour des enfants atteints du cancer, parce qu'ils ont très peu d'infrastructures dans cette ville. Donc, c'est au Togo. Et du coup, aujourd'hui, on est quatre, et on est dehors et on vend des gâteaux. Donc voilà, si vous voulez en acheter. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, on a une adresse mail qui est sur le site de l'oratoire. de la route. Vous pouvez nous écrire si vous avez des questions ou si vous avez besoin de services. Vu qu'on est une équipe de 9, on est assez libre et ça nous ferait très plaisir de vous rendre des services, tout ce qui est déménagement, petits travaux manuels, anniversaire, babysitting, enfin tout ce que vous voulez, on est libre en tout cas. Voilà, bon dimanche.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bien sûr, un grand merci au pasteur Jean-Pierre Rive pour ce culte, pour sa prédication aussi si riche par les thèmes qu'il a évoqués, qu'il a traités, si riche aussi par la diversité de ces thèmes, dont beaucoup justifieraient de nombreuses autres discussions, échanges et prédications. Merci, un grand merci à Aurélien Péter qui, au déboté, a dû remplacer Alexandre Korovitch et qui nous a régalé de sa musique. Il faudra qu'on le fasse venir plus souvent au déboté, d'ailleurs, quand on en voit le résultat. Merci aussi aux bénévoles de la garderie. Je profite de cette occasion pour dire que, bien entendu, nous avons toujours besoin de bénévoles, et particulièrement pour la rentrée de septembre. Donc, pensez-y durant l'été, méditez sur ce thème et agissez à la rentrée. Alors, des activités. Donc, lundi, il y a Hébreu biblique pour progressants. C'est le dernier cours, de 19h à 20h30, avec Christophe Siminski. Mercredi 4 juillet, c'est le début, je suppose, du mercredi biblique de l'été, de 12h30 à 14h30. Ces discussions se déroulent exceptionnellement cette année seulement du 4 au 18 juillet. Le pasteur Patrice Rollin, qui est animateur théologique de l'atelier protestant, commentera ses lectures sur le thème de la liberté. Ce mercredi, le thème sera « Liberté et libération » sur les textes de Deutéronome 5, 1 à 22 et Ésaïe 58, 6. Ça se tiendra à Salverne et l'entrée est libre. Samedi 7 juillet, récital d'orgue à 17h par Taras Baginest, organiste à la Philharmonique de Yekaterinbourg en Russie. Concert retransmis sur écran, organisé par l'Atoll. Libre participation aux frais. Dimanche 8 juillet, culte à 10h30, bien entendu, par le pasteur Béatrice Cléomazir, donc notre nouveau pasteur, qui commence son ministère à l'oratoire. Ça sera sa première participation, escalité des pasteurs de l'oratoire. Enfin, première participation au culte, hein, bien sûr, puisqu'elle sera là. Il y aura Aurélien Péter qui sera là. Il aura intérêt à faire quelque chose de formidable, comme d'habitude. Voilà, il y aura l'accueil, la rencontre à l'issue du culte, bien sûr, dans la sacristie, avec le verre de l'amitié pour accueillir et être accueilli. Alors, on me dit quoi ? On me dit qu'il faut... Ah oui, qu'il y a noté quand même quelques petites choses à rappeler ou à préciser. Le récital d'orgue de septembre, qui est prévu par Jean Guillou le samedi 1er septembre, est décalé au jeudi 6 septembre à 20h. Bon, je crois qu'on aura le temps d'en reparler. On me demande aussi de préciser qu'il y a un covoiturage qui est proposé en juillet pour Paris-Uzès-Paris. Alors, je vous donne quelques détails. Il y a trois trajets, en covoiturage qui sont proposés pour une ou deux personnes. Le mercredi 4 juillet, Uzès-Paris. Donc, c'est un peu raté pour ceux qui sont à Paris. Vendredi 20 juillet, Paris-Uzès. Et samedi 21 juillet, Uzès-Paris. Avec le permis B, la personne pourra conduire, ou sans permis, elle facilitera le trajet de la conductrice avec sa compagnie. La nuit du 20 au 21 est prévue sous la tente, ou encore mieux, chez l'habitant, si on pouvait en trouver un d'ici là. Voilà. La conductrice vous attend près du comptoir librairie, à la fin du culte. Vous pouvez aussi contacter le secrétariat de l'oratoire, lequel secrétariat, en juillet et août, sera ouvert tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 16h. Voilà, et maintenant, c'est le temps de l'offrande.
Seigneur Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. C'est de ta main que nous avons tout reçu. Accepte cette offrande que nous te présentons pour le service de ton Église et de nos frères. Amen. Je vous invite à la prière dans l'intercession. Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut. Viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton esprit. Pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui souffrent, qui luttent contre la maladie, pour les infirmes, les vieillards, les pauvres, les isolés, les torturés, les exilés, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui sont abattus par l'épreuve ou dont la foi chancelle, pour ceux qui passent par la tentation, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité ou dans la joie, nous te prions, Seigneur. Pour notre cité et notre peuple, pour ceux qui nous gouvernent, pour nos villes et nos campagnes, pour tous les peuples de la terre, et pour que des artisans de paix se lèvent partout pour lutter contre toute violence, nous te prions, Seigneur. Pour notre paroisse, pour ceux qui y exercent un ministère parmi nous, pour l'Église universelle, pour sa fidélité et pour sa vigilance dans l'attente de ton royaume, pour l'unité de ton corps sur la terre, nous te prions, Seigneur. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que ton Fils nous a enseignées. Je vous invite à vous lever et nous disons tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à entendre l'exhortation et à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Tu as ouvert les yeux de l'aveugle, Seigneur, arrache-moi toutes mes ténèbres. Tu as délivré de son mal le paralytique, Seigneur, rends-moi libre pour te servir. Tu as changé en joie la tristesse des pauvres, Seigneur, apprends-moi à partager. Tu as livré ta vie pour l'amour de la vérité. Seigneur, avive en moi la soif de ton royaume. Allez annoncer l'Évangile en parole et en actes. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.